Radio.
Radio.
Radio. Radio Germaine.
Onde politique, l'émission politique de Radio Germaine.
Au revoir.
Et si nous parlions d'abord de la France ?
Enfin, pardon, on n'est pas à l'université.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Hélas ! Hélas ! Hélas !
C'est de la poudre de perlimpin.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes
Yuna,
Lily
et Margot, toutes trois de Nous Toutes Sciences Po, et à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, nous nous joignons aujourd'hui à Radio Germaine pour parler du 8 mars, qui est une journée emblématique de la lutte pour les droits des femmes et pour la fin des inégalités de genre.
Mais quelles sont les origines de cette date devenue maintenant célèbre? C'est ce que nous allons voir. Commençons par les prémices. En février 1909, Teresa Serber Malkiel, militante socialiste juive américaine, immigrée d'Ukraine, initie avec son parti une première Journée nationale des droits des femmes à New York. Elle revendique la revalorisation des conditions de travail des femmes, le droit de vote des femmes, la naturalisation des immigrés et l'accès à l'éducation.
Cette idée d'une journée pour les droits des femmes est alors reprise en Europe. En août 1910, Clara Zetkin, militante socialiste allemande, propose une journée internationale pour mobiliser les femmes, je cite, « en accord avec les organisations politiques et syndicales du prolétariat doté de la conscience de classe ».
On va voir par la suite que c'est une idée qui conquiert de plus en plus. Le 19 mars 1911, la première journée internationale des femmes est célébrée en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse pour revendiquer le droit de vote des femmes. Le 3 mars 1913 et le 8 mars 1914 est célébrée pour la journée internationale des ouvrières en Russie. Le 8 mars 1917, des manifestations d'ouvrières se tiennent à Saint-Pétersbourg et s'ancrent dans le début de la Révolution russe. Déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e, les ouvrières, syndicalistes et militantes suffragistes luttent dans plusieurs régions du monde pour faire valoir leurs droits et dénoncer le patriarcat. Leur combat vise en premier lieu le droit de vote des femmes et la revalorisation de leurs conditions de travail. Le combat féministe prend de l'ampleur et s'enracine au-delà des frontières nationales.
Le 8 mars s'impose donc peu à peu comme une date reconnue par les instances internationales. Le 8 mars 1977, l'ONU adopte une résolution pour célébrer une journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale. Le 8 mars 1982, la France reconnaît le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars 2024, les Nations Unies définissent pour un an leur thématique sous l'intitulé « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Cette année, en France, collectifs et syndicats et associations appellent à la grève féministe ce 8 mars. Pourquoi choisir ce mode d'action? Inspirons-nous de nos sœurs de lutte à l'international. Partout dans le monde, les grèves féministes ont permis de faire avancer les droits des femmes et de bousculer l'ordre patriarcal établi. Une rétrospective évidemment non exhaustive de ces nombreux mouvements et des avancées qui les ont suivis témoigne de la puissance incontestable de ces femmes unies et mobilisées.
En 1966, en Belgique, les ouvrières de la Fabrique nationale d'armes de guerre débrayent pour réclamer « à travail égal, salaire égal ». Cette grève, absolument exceptionnelle, dure 12 semaines, met au chômage technique 5000 ouvriers et impose le recours à l'article 119 du traité de Rome pour l'égalité salariale dans toute la CEE. Soutenue par les mouvements en faveur de la dépénalisation de l'avortement, les manifestations de solidarité se multiplient. De nombreuses délégations d'organisations féminines, syndicales et féministes de différents pays viennent leur prêter main forte.
Le 24 octobre 1975, en Islande, entre 90% et 95% des femmes ne sont pas allées travailler et refusent de se charger des tâches domestiques. 30 000 femmes ont décidé de manifester contre la double journée de travail, donc professionnelle et domestique, paralysant le pays. Cette journée fut nommée le jour sans femmes. Suite à cette grève, des changements de législation donnant plus de droits aux citoyennes sont votés. En 1981, Figdís Finnbogadóttir devient la première femme au monde à être élue présidente au suffrage universel direct.
Le 14 juin 1991, en Suisse, plus de 500 000 femmes manifestent. Cette grève a pour but de faire appliquer l'article constitutionnel portant sur l'égalité homme-femme inscrit 10 ans auparavant et tardivement appliqué en 1996. Le manifeste du 14 juin contient 9 revendications. L'égalité salariale, l'interdiction du travail de nuit et le dimanche, la création de crèches et systèmes de garde d'enfants à prix réduit, la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, le partage égal des tâches familiales. En 2019 et les années qui suivront, le 14 juin sera à nouveau date de grève féministe en Suisse.
Le 19 octobre 2016, en Argentine, après de nombreux féminicides atroces dénombrés depuis plus d'un an, un appel à la grève féministe insiste sur le lien entre violence machiste et mode de violence et de précarisation économique, sociale et territoriale. L'appel consiste à arrêter tout le travail pendant une heure, absolument partout. Lycée, université, école, travail, maison, etc. Plus de 250 000 personnes protestent, alors à Buenos Aires, tandis que de nombreuses autres mobilisations se tiennent dans tout le pays.
En 2018, en Espagne, une grève féministe démarre par des concerts de casseroles la nuit à Madrid. Plus de 130 rassemblements sont dénombrés dans le pays. Métro et train annulés, médias nationaux sans présentatrice féminine, refus des femmes de s'occuper des tâches domestiques, des enfants ou des personnes âgées. Elles ne se présenteront pas à leur travail non plus. Dirigée par des syndicats et des organisations féministes, ce 8 mars, la grève féministe défendait l'égalité salariale et dénonçait les violences faites aux femmes. 5,3 millions de personnes se sont mobilisées.
En 2018, au Chili, les étudiantes dénoncent la lenteur des mesures contre le harcèlement sexuel de leurs professeurs et réclament un enseignement non sexiste. 20 universités sont bloquées pendant plusieurs mois et des manifestations massives éclatent. Le 8 mars 2019, plus de 350 000 personnes manifestent au Chili contre les violences à l'encontre des femmes, la discrimination que subissent les homosexuels et les transgenres, les conditions d'accueil des migrants et pour l'égalité salariale. Le 8 mars 2020, plus d'un million de personnes manifestent dans les rues de Santiago.
En 2021, en Algérie, des centaines de femmes manifestent à Alger réclamant l'abrogation du code de la famille. Elles scandent alors « Les femmes s'engagent, le système dégage ». En effet, malgré la réforme de 2005, ce code continue à faire d'elles, comme dénoncent alors les manifestantes, des mineures à vie. Elles condamnent également les violences faites aux femmes, portant des portraits de femmes victimes de féminicide. En 2019, cette journée avait coïncidé avec la manifestation hebdomadaire contre le pouvoir en place. Et elle était plus d'une centaine de milliers à Alger et plus d'un million dans toute l'Algérie, comptant alors une grande part de manifestantes.
Ainsi, inspirons-nous de nos camarades à travers le monde et construisons ensemble la grève féministe de 2024. Si tu te demandes comment participer à cette grève, voici quelques petits conseils.
Si tu es salarié, toutes et tous les salariés, à l'exception de quelques professions du secteur public, peuvent se mettre en grève en France, même si ils ou elles ne sont pas syndiqués. Dans le privé, pas besoin de préavis, vous pouvez même vous déclarer en grève après la mobilisation. Dans le public, un préavis de 5 jours est nécessaire. Cette année, 5 syndicats. Solidaire, CGT, CFDT, UNSA et FSU appellent à la grève féministe.
Et si tu n'es pas salarié, si tu es indépendant ou indépendante en recherche d'emploi, que tu ne veux ou ne peux pas te mettre en grève du travail, tu peux quand même participer à cette grève féministe. En affichant ton soutien, en portant des badges, foulards, t-shirts violets, en communiquant sur le sujet sur les réseaux sociaux et autour de toi, ou encore en aidant à l'organisation aux côtés de nombreux collectifs qui se mobilisent partout en France et qui participent aux manifestations du 8 mars.
Si en revanche tu es lycéen, lycéenne ou étudiant, étudiante, en plus des actions qu'on a énoncées au préalable, tu peux organiser une conférence ou un débat sur la grève féministe, tracter au début ou à la fin de tes cours, coller des affiches, des autocollants, participer au blocage de ta fac ou de ton lycée. Et comme on l'a vu juste avant au Chili, ce sont des grèves étudiantes qui ont lancé les mobilisations féministes.
Concernant le travail reproductif, le travail reproductif, ou travail domestique, représente le travail invisible et gratuit fait à la maison. Tâches ménagères, éducation des enfants, soins des personnes malades, etc., trop souvent exclusivement attribués aux femmes. La grève du travail reproductif permet de mettre en avant ce travail effectué tous les jours et de poser la question de sa répartition au sein du foyer.
Une autre façon de démontrer l'impact des femmes et des minorités de genre sur la société est de ne rien consommer le 8 mars. Aucun achat. Dans nos sociétés capitalistes, la grève de la consommation peut avoir un impact considérable sur les industriels et le gouvernement en les privant de recettes, même 24 heures. Le boycott, ça fonctionne.
Alors soyons des centaines de milliers à participer à la grève féministe de 2024. Bloquons tout, arrêtons-nous et faisons entendre nos revendications pour faire bouger les lignes. Si on s'arrête, le monde s'arrête.
Rebel girl.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à Radio Germaine pour leur contribution à l'élaboration de ce podcast. Merci à Emma, de Nous Toutes Sciences Po, pour la rédaction. À Margot et à Yuna d'avoir bien voulu prêter leur voix.
Et merci à toi, Lily.
Et surtout, rendez-vous en manif. N'hésitez pas à suivre Radio Germaine et Nous Toutes Sciences Po sur Instagram.
Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous.
Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié.
Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout.
Radio Germaine.